en ce lundi saint, début évidemment de la semaine sainte, quoique nous ayons eu hier le dimanche des rameaux, bien belle cérémonie. Pour tous ceux qui savent les goûter, les savourer, hein. Alors, il y a plusieurs saints aujourd'hui, mais j'ai pensé que ce serait peut-être préférable de parler du saint des saints. Celui qui est à l'origine de toute sainteté, de Dieu lui-même. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il y a une attitude fondamentale, il me semble, qu'on devrait avoir devant la question de Dieu. Et c'est Gabriel Marcel, ce grand philosophe chrétien de ce siècle, qui disait que Dieu n'est pas un problème à résoudre, mais c'est un mystère dans lequel nous devons nous engager. Je dois m'engager, disait Gabriel Marcel, dans ce mystère. Car affirmer l'existence de Dieu, tout simplement, ça ne mène à rien. C'est plus que ça, hein. C'est un engagement. Parce que la question de Dieu, qui est remise en question par beaucoup de gens, et aujourd'hui c'est tellement plein de jeunes qui affirment qui n'y croit plus. J'entendais hier à la télévision, à TV5, à l'émission de Bernard Pivot, le jeune Onfray, O-N-F-R-A-Y, fils d'un paysan, mais esprit extrêmement brillant, qui monte dans le firmament des lettres en France, et qui s'affirmait comme athée en présence de Jacques Julliard, avec lequel j'ai déjà dîné un soir à Paris, avec Denise Bombardier, tous les trois, Jacques Julliard, un chrétien convaincu, qui est directeur adjoint de cette grande revue, un peu de gauche, le Nouvel Observateur. Et je me demandais qu'est-ce que Jacques Julliard pouvait bien penser devant ce jeune qui grandit, alors que Jacques Julliard affirmait qu'après avoir plus ou moins méprisé Paul Claudel, ce grand écrivain catholique de ce siècle, qui s'était converti tout jeune à la fin du siècle dernier à Notre-Dame, que maintenant il aimait beaucoup Paul Claudel. Il faudrait bien que je vous fasse une grande émission sur Paul Claudel pour faire goûter cet auteur qui est puissant, un peu comme les grands prophètes de la Bible et les grands auteurs spirituels, ou les grands, grands auteurs. Et alors la question de Dieu, qui est rejetée par bien des gens aujourd'hui, l'athéisme se répand, dit-on. On prétend qu'il y a de plus en plus d'athées d'après les statistiques, et de plus en plus d'agnostiques à travers le monde entier. Alors cette question de Dieu n'est pas à mettre simplement au niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une simple démonstration. Là, on démontre mathématiquement l'existence de Dieu, et puis qui pourrait satisfaire l'intelligence, mais qui ne changera rien à nos vies. Ça peut pas être ça. C'est Jacques Le Breton. Vous vous souvenez de Jacques Le Breton, j'imagine, la plupart d'entre vous. J'avais eu la chance de l'inviter à Rencontre à la télévision de Radio-Canada. Il avait fait sensation. J'ai eu la chance comme ça de le faire connaître, car j'avais entendu parler de lui. C'était ce jeune homme qui, à la guerre, a lancé une grenade. Cette grenade, avant qu'il ne la lance, lui a explosé dans les mains. Alors, il a perdu ses mains et ses yeux. Alors, imaginez-vous, sans yeux et sans mains, on ne peut rien faire. On est complètement dépourvu. Complètement dépourvu. On peut même pas boutonner sa chemise. On peut pas manger. On peut pas allumer quelque chose, ouvrir la radio, à moins d'avoir des appareils spéciaux, des appareils de radio qui seront faits avec une espèce de petite pédale, disons, pour ouvrir et fermer, parce que même presser un bouton, c'est très difficile. Alors il disait, Dieu n'existe pas, ai-je pensé, car il avait perdu la foi en Dieu à la suite de ce drame. Il est devenu diacre. Alors Dieu n'existe pas, ai-je pensé. En fait, Dieu, je le sais à présent, ne nous enferme jamais dans une preuve de son existence. Quelle extraordinaire liberté! Parce que nous ne sommes pas enfermés dans une preuve de l'existence de Dieu. Au contraire, nous sommes libérés. On peut dire que d'une part, chacun d'entre nous, nous nous posons la question de Dieu, c'est sûr, hein? Mais personnellement, moi, je ne veux pas faire de Dieu un second, un produit de ma réflexion, de mes désirs ou de mes rêves. Non. Dieu, ça peut pas être simplement ça. Je sais que c'est moi, toute ma vie, depuis ma plus tendre enfance, qui ai été questionné d'abord par Dieu, par quelqu'un d'autre. Mais mon existence, comme notre existence à chacun d'entre nous, je l'espère, c'est une question qui nous est posée personnellement. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qui suis-je? Comment se fait-il que je sois sorti du sol de cette planète, car je suis fait de la même matière? Par l'entremise de mon père et de ma mère, qui ne m'ont pas créé, mais qui ont participé à cette fabrication par un geste d'amour, par une relation, disons-le, sexuelle, dans toute sa beauté. Et puis, voilà, que ma mère a mangé les produits du sol, et j'ai grandi dans son sein, et j'ai grandi depuis. Et voilà, je suis là, et la matière de mon corps se renouvelle, dit-on, à toutes les 7-8 ans, par la matière même du sol. C'est assez mystérieux. Cette question qui m'est posée à moi personnellement sur mon existence, qu'est-ce que je fais? C'est une demande qui attend une réponse. Il faut bien lui donner une réponse. En somme, c'est Dieu, au fond, qui me questionne, au fond de moi-même, et qui me fait me questionner, qui me fait me dire qu'est-ce que je fais sur cette terre. Il attend ma réponse. Alors, c'est à moi de jouer, hein? C'est à moi de répondre. Et que c'est doux de répondre. Dans la recherche de Dieu, il faut certainement pas donner trop d'importance à tout l'aspect intellectuel, tout l'aspect de réflexion puis de raisonnement. Car Dieu, c'est sûr, c'est un mystère étrange. Qui est-il? Comment peut-il exister depuis toujours? Alors, il faut pas d'abord chercher à comprendre, mais à aimer. Ce n'est que l'amour qui solutionne la question. Aimer. Aimer. Avez-vous déjà lu cet ouvrage paru il y a, oh mon Dieu, 957, de Divo Barsotti, La révélation de l'amour? C'est un énorme ouvrage de 500 pages. C'est un des plus beaux livres sur cette approche amoureuse de Dieu. Car on peut donner un sens à son existence avant d'avoir fait évidemment la pleine lumière sur toute la question, en raisonnant, tout ça. C'est l'amour qui donne un sens. Hein? Parce que la foi, en tant que telle, quand on dit « je sais que Dieu existe, je suis sûr que Dieu existe », mais dans la foi, il y a beaucoup d'obscurité quand même. Hein? Et cette foi ne deviendra vraiment lumineuse qu'après notre mort, quand nous aurons cette vision de Dieu face à face. Ô douce mort, hein? Notre sœur, la mort, qui est cette grande naissance qui nous donne la vision de Dieu face à face. Mais alors, il sera trop tard, car je risque de prendre l'habitude, si je me contente de ma foi, de fermer les yeux et de ne rien voir. C'est Jean Rostand qui se disait, un croyant, qui disait, on gagnera plus à avoir aimé qu'à avoir compris. C'est curieux que de la bouche de ces gens, ce grand biologiste incroyant, peuvent sortir de ces vérités magnifiques et on gagnera plus à avoir aimé qu'à avoir compris. Et c'est Saint Jean, d'ailleurs, dans la première épître, qui dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Hein? » Il y a une parole intéressante de Ramakrishna. Je la cite pour tous ceux qui s'intéressent à Ramakrishna, qui est un sage hindou dont j'ai lu la vie il y a bien longtemps. Peut-être un jour pourrais-je vous en parler, car c'est une sorte de saint à sa façon. Il dit, « Dans le royaume de Dieu, La raison, l'intelligence, puis le savoir ne procurent aucun avantage. Dans le royaume de Dieu, je répète, la raison, l'intelligence et le savoir ne procurent aucun avantage. Il ajoute, dans ce royaume, le muet parle, l'aveugle voit et le sourd entend. Et ça, ça vient de quoi? De l'amour. D'ailleurs, dans Matthieu, au chapitre 11, Évangile de Saint Matthieu, c'est Jésus qui crie, « Je te bénis, ô Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux habiles et de les avoir révélées aux tout-petits. » Les tout-petits, ça peut être le pape, ça peut être d'éminents savants et d'éminents théologiens et d'éminents exégètes. C'est pas une question de non-science, être petit. Être petit, c'est être humble. Reconnaître que tout vient de ce Dieu. Et que c'est dans l'amour qu'on le connaît. Que si tous les raisonnements qu'on a échafaudés, comme le pape Jean-Paul II l'a fait lui-même, auteur d'ouvrages très recherchés, très savants, ou prenons son bras droit, le cardinal Ratzinger, qui a écrit aussi de très beaux livres, qu'on dit ce qu'on voudra, il y a de très beaux livres du cardinal Ratzinger. Or, si Dieu existe, tout change dans ma vie, hein? Car ma vie, elle est reçue. Elle doit être accueillie comme un don. Le sens de ma vie, là, je n'ai pas à l'inventer de toutes pièces, mais à le découvrir, ce sens, qui est caché au cœur du monde. Et si j'enquête sur le secret de ma naissance et de mon origine, comme un orphelin qui chercherait l'identité de son père, c'est là que je m'achemine vers Dieu. Je dois identifier, hein, parce que le bonheur profond, avec acceptation de la volonté de Dieu sur moi, même si ce n'est pas apparent, c'est tout l'esprit des béatitudes. Quand on lit les béatitudes, vous les connaissez, bienheureux, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mais oui, nous serons consolés dans nos larmes de notre existence qui parfois est sombre, car Dieu illumine tout, transforme tout. Si je fais de Dieu un obstacle à mon bonheur, alors j'ai intérêt à ce qu'il n'existe pas. Beaucoup de gens font ça, hein? Ils finissent par dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils ont l'impression que Dieu, c'est l'empêcheur de tourner en rond, l'empêcheur d'être heureux, celui qui nous empêche d'être vraiment heureux. Alors, on risque de s'aveugler. Parce que venir à la lumière, c'est changer de cœur, hein, de vie. Par exemple, je dois rompre cette liaison à laquelle je suis très attaché. Pour que Dieu vive en moi. Je dois renoncer à l'argent. Je ne peux me permettre de m'acheter une bouteille de vin à 300 $, ni encore moins à 10 000 $, comme on entend à la télévision parfois. Je dois renoncer. Parce que l'argent ne peut pas être le premier moteur de mes actions. Ça ne peut pas être la source de mes actions. Mais non, devenir libre, écrit un petit garçon, en France, il disait, c'est faire qu'il n'y ait pas de Dieu. C'est là que les athées, entre guillemets, trouvent leur liberté. Devenir libre, un garçon d'environ 14 ans qui écrivait ça, c'est faire qu'il n'y ait pas de Dieu. Une fille un peu plus jeune qui disait, qui avait 12-13 ans, être libre, c'est ne dépendre de personne. Ils veulent pas dépendre de Dieu. Mais peut-être que cette petite fille voulait dire qu'il ne faut pas dépendre d'une façon totale d'un amour éperdu. Il faut toujours que Dieu y soit présent aussi. C'est Saint Jean qui parle de la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Vous vous souvenez de ce texte? Et le monde ne l'a pas connu. C'était ce qu'on appelle le dernier évangile. C'est le début de l'évangile de Saint Jean. Après cette émission, si vous avez l'évangile de Saint Jean devant vous, là, lisez bien le premier chapitre. C'est de toute beauté. Vous réfléchirez sur l'existence de Dieu. Car saint Jean parle de cette lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, c'est Jésus. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors celui qui fait le mal est la lumière, dit Jésus. Au chapitre 3 de saint Jean, hein, celui qui fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il apparaisse au grand jour, que ses œuvres sont faites en Dieu. Et il dit aussi, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est souvent ce qui nous arrive, hein. On ne veut plus aller à la messe, on ne veut plus croire, on prétend qu'on ne croit plus. On s'éloigne du Christ, on s'éloigne de Dieu, on a comme une espèce de nausée des œuvres spirituelles et de tout ce qui est religieux, et de tout ce qui pourrait être un lien entre Dieu et nous parce que nos œuvres sont mauvaises. Et notre conscience est là, qui nous torture au fond de nous. Et nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas avec la lumière. Une plante sans lumière s'écrase, elle meurt. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin de nous mettre sous les rayons de Dieu, de cette lumière extraordinaire qui habite en nos cœurs. C'est une lumière que nous devons recevoir dans notre intelligence et notre volonté. Alors dans la quête de la vérité, là, il faut absolument avoir une attitude fondamentale d'humilité, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas rejeter Dieu a priori sous prétexte qu'il nous empêche d'être heureux ou tout ça. Il ne faut pas oublier que personne n'a jamais prouvé la non-existence de Dieu. Prouver que Dieu n'existe pas, ça ne se fait pas. Il faut reprendre la prière de Charles de Foucault, dont je vous ai parlé le 1er décembre, Charles de Foucault, hein. La cassette existe. Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté à lui. Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. Et c'est Pascal, Blaise Pascal, hein, qui disait, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Alors, qui est Dieu? Qui donc est Dieu? C'est une question qu'on se pose malgré soi, dès le lever quand on prie, moi ça m'arrive souvent. Mais c'est une question qui doit être vécue avant d'être formulée. Et nous sommes là dans l'inconscient profond de notre cœur, ne trouvez-vous pas? Moi je pense que l'enfant, dès le sein de sa mère, dès sa conception, éprouve confusément son existence comme une interpellation, hein. Il y a déjà une interpellation. Dans la nuit obscure, il me semble que déjà il répond, en donnant un sens à son existence, parce qu'il y a ouverture ou fermeture à autrui. Vous savez qu'il y a des enfants dans le sein de leur mère qui se ferment déjà à autrui. Ils entendent peut-être les cris d'horreur de leur père hystérique et drogué et alcoolique, ou leur mère qui les rejette. Qui ne savent pas aimer ce qu'elle porte, celui qu'elle porte. Mais par contre, la plupart aiment leur enfant. L'enfant a une ouverture. Il est déjà en relation, on peut dire, avec Dieu sans le savoir, dans un sens. Hein? Et tout adulte entend au fond de son être une voix intérieure. C'est celle de sa conscience dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que les hindous appellent le Brahman. Tout homme poursuit un idéal. Hein? Et il met sa foi dans les valeurs, vérité, ou bien justice, ou bien amour, ou beauté, ou bonheur, ou, espérons-le tous ensemble, hein, les grandes valeurs, la vérité. Être vrai, être juste, aimer la beauté, le bonheur. Alors ces valeurs, ça concerne toujours des rapports de l'homme avec le monde, puis avec les autres, hein, c'est sûr. Et cette foi, on peut appeler ça une foi, se transforme donc en action, en choix, en engagement. Alors, tout homme et toute femme qui a des valeurs comme celle-là, là, disons que c'est la justice, bien, il va y avoir, vont poser des actions, faire des choix, des engagements pour la justice, pour la vérité, pour la beauté. Que d'artistes qui sont consacrés avec passion à la beauté, hein? J'ai déjà parlé de Michel-Ange. Quelle passion, quelle vie magnifique, hein? Quelle heure splendide on avait passé avec Michel-Ange. Mais quelle est la motivation profonde, là? Quelle source, souvent inconsciente, qui va animer l'homme? Son besoin d'absolu, est-ce qu'il va être dans des choses secondaires? L'absolu peut pas être secondaire. Il risque d'ériger toutes ces histoires-là comme des idoles, hein? Or, il faut chercher ce Dieu inconnu, hein? On peut pas condamner de l'extérieur les gens qui cherchent. On doit les aider, hein? Et comme indice là, d'une ouverture à Dieu chez les gens qui nous entourent, nous qui croyons l'avoir trouvé, on peut croire que il y a dans tout homme de l'amour. Et ça, c'est un signe de Dieu. Puis il y a toujours chez tout homme un désintéressement dans le service. Ils sont tout homme, toute femme est heureux, même si c'est rare chez certains, parce que tellement ils sont égoïstes, de rendre service et d'y trouver un certain bonheur. Hein? Vivre selon la loi fondamentale de notre existence et vivre selon l'amour. Hein? Je voudrais pas ici parler trop du mystère de l'athéisme. C'est trop complexe, trop délicat. Il suffit de dire qu'il faut aborder ça avec beaucoup de sérieux puis de respect. Et c'est pour ça que je pose la question préalable. Si tu es athée, tu es, malgré toi, croyant, mais par rapport à quel Dieu? Tu t'es fait un Dieu avec un petit dé, là. Est-ce que c'est le vrai ou bien sa caricature? Est-ce que c'est la justice, l'amour, la beauté, le bonheur, quoi? Et nous ne sommes pas toujours, d'ailleurs, ce que nous affirmons ou que nous imaginons. Les gens qui se disent athées souvent se rendent compte que c'est un Dieu qu'ils croient entendre de notre bouche qu'ils rejettent, un Dieu justicier et plein d'horreur. Et ce sera d'ailleurs l'étonnement au jour du jugement. Rappelez-vous ce que Jésus dit, hein, c'est extraordinaire. Dieu qui dit, ce que tu as fait au plus petit des miens, au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Et c'est ainsi que des gens qui étaient tout surpris, qui disaient, mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais rien fait. Puis Dieu dit, mais non, c'est à moi que tu l'as fait. Alors, comment savoir qui est Dieu? Mais tout d'abord, à travers les perfections de la création. Et la Genèse nous en fait le récit, que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, tout ce qui peut nous émouvoir ou nous combler, hein? Le corps, le cœur. Des fois, j'entends mon cœur qui bat quand j'ai la tête sur le rive, j'arrive pas à dormir, puis je me dis, c'est extraordinaire, oh mon Dieu, tu as fait ce cœur qui bat dans ma poitrine depuis à peu près 19-20 jours après ma conception. En somme, plus de 8 mois avant que je ne naisse. Il bat toujours, il est là. Il bat. C'est extraordinaire. Fantastique. Puis l'esprit aussi, tout ça me semble vient de Dieu, il nous parle de lui, il nous conduit à lui. Hein? Il faut chercher Dieu à travers aussi tous les hommes, toutes les femmes. Dieu nous est révélé, surtout là, l'homme et la femme sont bâtis très spécialement à l'image puis à la ressemblance de Dieu. Puis c'est dans le cœur de l'homme, dans celui des autres, dans le mien aussi, qu'on peut découvrir en vérité qui est Dieu. Les autres m'ont révélé qui est Dieu, hein? Comment? Bon, on peut dire, avec Luc, chapitre 2, que la conscience humaine de Jésus a découvert progressivement la tendresse du Père pour tous les hommes, à travers l'amour de Joseph et de Marie. Ça, c'est simplement sa conscience humaine, pas sa conscience divine, c'est sûr, mais sa conscience humaine comme un petit garçon qui découvre, comme nous tous, progressivement la tendresse de son Père pour tous les hommes à travers cet immense amour de Joseph et l'immense, immense amour de Marie. Hein? On trouve ça dans Saint Luc, chapitre 2, verset 52. Alors, c'est comme très, très souvent les saints ont trouvé cette tendresse du Père à travers l'amour de leurs parents. Et de même, nos parents, nos éducateurs nous ont révélé qui est Dieu moins à travers leurs paroles qu'à travers ce qu'ils étaient. C'est les chrétiens vivants qui révèlent Dieu. Je révèle Dieu aux autres. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que je le fais? Mon attitude à l'égard des autres, de mes enfants, de mes élèves, de mes voisins, ou du simple passant dans un autobus ou un centre d'achat, dévoile Dieu qui habite en moi si j'aime Dieu et je me suis laissé aimer par lui, et dont je transmets l'image plus ou moins ressemblante. Évidemment, c'est plus ou moins ressemblant, c'est toujours briser notre image de Dieu. Mais je veux dire, on peut découvrir Dieu dans notre cœur aussi, hein? Il est au-dedans de nous. Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Mais comme nous sommes nés de Dieu, eh bien plus nous devenons frères et sœurs des autres, plus nous devenons fils, et plus Dieu nous apparaît. Parce qu'il est vraiment, il est notre Père. Ce mystère de Dieu dont nous sommes responsables de l'image. Nous devons être, si nous y croyons vraiment, nous devons être l'image du vrai Dieu, qui est Père. La révélation de Dieu se fait à travers des hommes, des femmes, à travers nos comportements, nos actes, nos paroles, à travers les communautés aussi. Il se fait de façon grandiose à travers les saints dont il est question à cette émission Rencontre spirituelle. Du lundi au vendredi, depuis le 1er mai dernier, ça va faire un an bientôt, dans un mois. Tous les jours, tous ces saints. C'est là qu'on voit l'image de Dieu. Ce sont des facettes, plutôt, de Dieu, car Dieu est immense, infini, et nous ne pouvons en donner qu'une bien faible image, mais il faut qu'elle soit vraie. Il faut qu'elle soit authentique. C'est un risque immense, parce que nous, les hommes, nous, femmes, nous pouvons défigurer l'authentique visage de Dieu, car notre cœur est souvent un peu mauvais. Je pense à un petit garçon qui disait, en apprenant que Dieu était père, vous la connaissez cette histoire, qui déclarait « Je ne tiens pas à le rencontrer, parce que pour lui, un père, c'est un buveur, un brutal. Souvent, l'image du père est terrible chez des gens, et le mot père leur fait peur. Disons que c'est un père qui a un cœur de mère. Puis, il faut croire aussi au salut de Jésus-Christ, et il y a peut-être autant de conceptions de Dieu que de personnes. Alors, où est le vrai Dieu? Moi, je suis personnellement archi-convaincu, en tous les cas, que nous pouvons et nous devons corriger toutes les fausses images de Dieu grâce à Jésus-Christ. Que cette semaine, nous allons célébrer en l'accompagnant. Jésus-Christ, le seul Fils parfait, qui s'est montré en tout semblable au Père, qui disait « Qui me voit, voit le Père ». Quand je dis qu'il disait, il le dit toujours. Et sa parole est toujours aussi vraie à l'instant où je la prononce. Qui me voit, voit le Père. C'est le Christ qui parle. Peut-on en dire autant de nous, voilà le problème, hein? C'est exigeant de dire Dieu est amour, car nous devons être parfaits dans la tendresse et la miséricorde, comme le Père céleste est parfait, hein? Pas facile. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Acceptons cette révélation que Jésus nous propose. Or, les raisons qui confirment l'existence de Dieu, j'y arrive. Donc, les raisons qui fondent ou qui prouvent l'existence de Dieu, j'ose pas trop le dire, car ces formules équivoquent pourrait risquer de nous faire penser que le fondement de notre foi, mais c'est la raison. Alors que seuls les intellectuels, les raisonneurs, auraient accès à l'existence de Dieu, dans le rationalisme, si on peut dire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Je sais qu'il y en a qui tombent dans l'excès inverse, et ça m'irrite personnellement. C'est le fidéisme qui dit, Ça dénie tout rôle à l'intelligence dans la recherche toujours plus grande de Dieu. Servons-nous quand même de notre intelligence. Nous en avons tous une, à divers degrés. Certains sont adultes sur le plan des sciences humaines. Et sur le plan de la foi, là, on dirait qu'ils sont des petits-enfants. Je reste toujours surpris. J'en ai interviewé de ces savants, parfois, pour la télévision de Radio-Canada. J'ai eu cette chance-là. Mais c'était comme des enfants sur le plan de la foi. Hein. Je me souviens d'un grand penseur qui disait dans l'entrevue, « Je ne crois pas à ce Dieu barbu assis sur son nuage. » Quand ça a eu fini, je l'ai embrassé, j'ai dit, « Moi non plus, je ne crois pas à ce Dieu assis sur son nuage. » Mais il dit, « Mais comment, vous vous dites chrétien ?» Ben, je dis, « Justement, nous, chrétiens, ne croyons pas à un vieux barbu assis sur un nuage. Qu'est-ce que c'est ?» Il était tout surpris. Il avait 67 ans. Personne ne lui avait jamais dit, cet intellectuel, c'est incroyable, hein? Incroyable. Oh, s'il l'avait entendu, il ne l'avait pas compris. La foi en Dieu, c'est pas un pari hasardeux, comme le pensait Pascal. Non, non, non. Notre foi de charbonnier, au fond, car nous sommes tous un peu des charbonniers, ça doit se cultiver, c'est essentiel. Hein? En fait, si par l'ouverture profonde, souvent inconsciente, de ma personne, il y a une ouverture profonde, inconsciente, dans mon cœur, au fond de moi-même, dans mon âme, si je suis là en liaison avec Dieu, alors, je suis dans cette espèce d'arrière-plan de lumière. Et je puis certainement avancer beaucoup d'arguments qui permettent à ma foi de mettre en évidence que c'est bien raisonnable de croire en Dieu. L'une des difficultés majeures, quand on dialogue avec certains incroyants, ce sont les préjugés. Hein? Les préjugés. Le principal obstacle, ils vont dire, là, « Oh, moi, je ne crois que ce que je vois. » Mais c'est ridicule. Est-ce qu'on voit l'amour? L'amour existe. C'est aberrant. Le principe de se baser là, sur l'observation des phénomènes visibles, c'est valable pour la méthode scientifique. Bon, ça va pour les savants, ça. Mais pas pour une démarche de foi. Vous vous souvenez de l'histoire du savant du 19e siècle qui disait « Je n'ai jamais rencontré l'âme sous mon scalpel. » Bon, je trouve ça tellement enfantin. Parce que si par-delà mon corps, je ne discerne pas quelqu'un d'invisible qui parle, alors, ben, l'esprit n'existe pas. Il me serait impossible d'affirmer l'existence de Dieu qui est esprit, qui n'est pas matière, qui n'est pas observable, et qui ne peut se manifester que par des signes. En fait, Dieu n'est nulle part dans l'univers, comme l'âme nulle part dans le corps de façon matérielle. Il n'est pas dans ma main, mon âme, il n'est pas dans mon épaule. Dieu et l'âme sont partout de façon spirituelle, car mon âme est dans mon épaule, mais elle n'est pas que dans mon épaule, elle est partout, dans tout mon être. Et Dieu est partout dans l'univers, partout, et il déborde. C'est Gagarine, vous vous souvenez, l'astronaute russe, qui disait « Je suis allé explorer le ciel et je n'y ai pas vu Dieu ». Alors un prêtre orthodoxe russe de Moscou lui disait « Si vous n'avez pas rencontré Dieu sur la terre, vous ne le rencontrerez jamais dans le ciel ». Mais d'ailleurs, savez-vous ce que Gagarine a dit? Ce qu'il a proclamé vraiment, et ça c'est authentique, il a dit, Gagarine, car c'était pas un imbécile, « J'ai été émerveillé de la grandeur de Dieu ». C'est ça que Gagarine a dit. Mais notre presse, nos journaux, sont tellement remplis de gens qui s'amusent à crier contre Dieu, qu'ils ont fait dire à Gagarine des choses contraires à sa pensée. « J'ai été émerveillé de la grandeur de Dieu ». Peut-être avait-il dit au début, je suis allé explorer le ciel et je n'y ai pas vu Dieu. C'est possible qu'il ait dit ça aussi. Mais ce qu'il avait dit surtout, j'ai été émerveillé de la grandeur de Dieu. Car croire, c'est affirmer que l'essentiel est invisible pour les yeux. Vous vous souvenez de ça, hein? Vous avez lu ça? Ah, mon Dieu, Saint-Exupéry, le petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le spirituel est plus réel que le charnel. Dites-vous bien que votre table pas loin de vous, disparaîtra un jour dans un incendie ou elle s'effondrera dans un tremblement de terre ou elle sera si vieille que vos descendants la jetteront à la poubelle. Nos civilisations vont s'effondrer comme toutes les autres civilisations avant. Tout passe. Les réalités invisibles demeurent et c'est celle-là. Aucun être visible n'est un premier principe. Il n'y a pas un être. On peut pas dire... nous sommes nés de nos parents, qui ont été fabriqués, si on veut, par d'autres. Puis à travers toutes ces origines, on découvre quoi? Une origine unique et absolue à tout l'univers. C'est évident, me semble. Comment des êtres humains ne puissent pas comprendre ça, qu'il faut arriver à une origine avec un O majuscule unique, absolue de tout l'univers? Nous sommes tous nés de Dieu. Cet autre, avec un A majuscule qui est Dieu, c'est la source de ma vie. Il est mon centre, il est le centre de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas, chacun d'entre nous, le centre du monde. On a l'impression parfois que tout ce qui nous entoure, et c'est nous qui sommes le centre. C'est une illusion idiote qu'on a tous, et c'est malgré nous, hein. On s'accorde de l'importance. Nous allons tous disparaître dans quelques années, nous les vivants de cette planète. Et on ne parlera plus de nous quelques heures après notre mort. Nous serons disparus à tout jamais dans la mémoire humaine, peut-être pour une génération, de gens qui nous ont aimés, mais qui ne penseront presque plus à nous. C'est en Dieu que nous existons vraiment. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ailleurs, pour reconnaître dans la nature des lois, hein, ce qui suppose un législateur qui, lui, qui a fait les lois. L'infiniment grand du firmament. Moi, je suis pris de vertige devant les espaces infinis, comme disait Pascal. Souvenez-vous que les télescopes là, nous font découvrir des explosions du noyau central d'une galaxie. Hein. Puis l'explosion réelle là, a eu lieu il y a des millions d'années. Mais on la voit tout à coup. À cause de ces télescopes, la matière est éjectée là, dans l'univers. À quelle vitesse? À quelle vitesse? 36 millions de kilomètres à l'heure. Quelle puissance incroyable! C'est l'astronome Kepler qui disait « Quand je pense, je repense Dieu ». Il voulait montrer que par ses études, il mettait son intelligence humaine dans les pas de l'intelligence divine. Pensez que les mers, les montagnes, les glaciers, avec leurs longues périodes géologiques, là, tout ça, toute cette montée le conduit vers ce que Teilhard de Chardin appelait le phénomène humain. Hein. Je vais vous en parler de Teilhard de Chardin là, le mercredi 10 avril, toute l'heure. Il est difficile de ne pas voir l'intervention de Dieu dans toute cette ascension hein, du devenir de l'homme, l'infiniment petit. De la cellule biologique, là. Nous étions tout petits. De l'atome, tout ça c'est extraordinaire, puis infiniment grand. Ah, le corps humain, que toutes ces lois, pensez à votre cerveau, à l'œil, l'oreille, la circulation, le système nerveux, l'apparition, le développement de la vie. Ah, vous qui êtes des parents, pensez-vous que vous avez fait vos enfants? C'est un programme préétabli. L'éducation sexuelle, ça peut être un risque dans bien des écoles, mais ça peut être aussi une grâce si c'est présenté de façon intelligente. Ça peut déflorer le mystère de la vie en réduisant tout ça à des espèces d'affaires anatomiques. C'est ce qu'on fait souvent dans nos écoles. Mais ça peut aussi pousser des élèves à chanter leur admiration devant Dieu qui nous a fait et qui nous fait. Ah, si les professeurs de sexologie étaient des croyants. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre sur les ondes autre chose que des demoiselles Bouchard qui nous disent toutes sortes de sottises sur la sexualité, plutôt que d'avoir des gens qui croient et qui savent que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, la sagesse manifestée dans la relation sexuelle féconde. Puis l'instinct des animaux, c'est superbe l'instinct des animaux. C'est le fameux Fabre, cet entomologiste dont je devrais vous parler un jour, qui a bien observé les insectes et qui disait « Je ne crois pas en Dieu, je le vois ». Il le voyait. Pour penser à la finalité du monde, qu'est-ce que c'est que ce monde, cette machine? C'est une machine à faire des dieux. La Terre, c'est une machine à faire des saints. C'est ce que dit Bergson. Henri Bergson, j'ai fait une émission aussi sur Henri Bergson. Je vous l'avais dit, d'ailleurs. Les organes sont adoptés à un but. L'estomac, c'est pour manger, l'œil pour voir. C'est extraordinaire. Le monde, de toute façon, tout cet univers est condamné à mort. Et si personne n'est au commencement du monde, s'il n'y a pas de Dieu, alors l'homme, la femme sont perdus. Nous sommes réduits à des phénomènes corporels. Nous retomberons en poussière. Alors l'avenir, si Dieu n'existe pas, c'est le néant. Si Dieu n'existe pas, c'est les ténèbres. C'est absurde pour mon intelligence à moi. J'ai soif de cohérence. Et pour le cœur, mon cœur aspire à un bonheur infini. Votre cœur n'aspire-t-il pas un bonheur infini qui est Dieu? Si Dieu est au commencement, lui qui m'a donné un esprit, je sais qu'il va le reprendre à la fin de ma vie. Je remets mon âme dans tes mains, mon Dieu. Et je lui fais confiance. Mon désir d'infini ne crée pas Dieu. Mon désir d'infini le suppose. On ne crée pas Dieu. Dieu est devant moi, caché dans mon inconscient. J'ai pas à faire d'efforts pour le rendre présent. Il est immédiatement présent. Comment? Parce que je sais qu'il me crée actuellement. Il me fait naître de lui. Je suis une parole prononcée par lui en ce moment. Je sais que Dieu me connaît à fond. Je n'ai pas besoin de l'informer. Il sait tout ce que je veux. Et je m'émerveille devant cette présence, comme il est dit dans le psaume 139. Vous savez, tout ce que je vous dis, c'est toutes des vieilles choses qui sont dans la Bible. Nous devons tous passer de cette inconscience presque inévitable dans laquelle nous sommes plongés, à la conscience de cette présence de Dieu en nous, en moi, en vous, dans votre cœur, puis dans le monde, il est présent partout. J'aime bien cette vieille parole, hein, « Réveille-toi, ô toi qui dors ». Et ça, c'est tout le cheminement. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? On va parler d'eux bientôt, là, dans quelques jours. Vous suivez les disciples d'Emmaüs, c'est qui ça? C'est ceux qui étaient découragés, ils s'en allaient dans leur village à Emmaüs, en Israël, au lendemain de la mort de Jésus. Ils marchaient sur la route, le cœur tout brûlant, avec Jésus-Christ ressuscité, mais qu'ils n'avaient pas reconnu. Ils l'ont reconnu au moment où il a partagé le pain avec eux. Que c'est beau cette histoire. On va en parler jeudi. Si je suis convaincu pour ma part, comme vous l'êtes tous, j'espère que Dieu est celui qui est. C'est son nom dans la Bible. Et Jésus se l'est attribué à lui-même. Il est, non de façon abstraite, mais concrète, là, existentielle. Comment expliquer ça, là? Il est bien plus que nous. C'est lui qui nous tient dans l'existence. C'est lui, il est. Alors on n'a plus besoin de miracles. On n'a plus besoin de signes exceptionnels. Ou d'interventions extraordinaires, ou d'huile qui coule. Non pas que je sois con, j'ai vu déjà une icône devant moi. L'huile en sortait, elle était créée par Dieu. Je le dis parce que je l'ai vu. Et je l'ai vu, je l'ai observé pendant plusieurs minutes, au moins 15 minutes. Je l'ai vu, de mes yeux vus. On n'a pas besoin de ces interventions extraordinaires nécessairement. Elles nous sont données par grâce et par gentillesse de la Vierge de Dieu. C'est Dieu qui fait les miracles. Pour appuyer notre foi, oui. Et si nous regardons avec des yeux de croyants, tout devient signe de son action. Hein? Une fleur qui sort de terre, elles vont sortir, là. C'est Dieu qui crie sa vie. Et ces explosions fantastiques dans l'univers que le télescope Hubble nous montre, que c'est fantastique. Quand on sait ce que c'est qu'un atome, les protons, les neutrons tournent autour du noyau à une vitesse sans cesse, constante. Notre cœur qui bat sans cesse, nos yeux qui voient, qui sont faits de matière, et ils voient notre cerveau. Ah, tout ça, c'est tellement extraordinaire. Crions notre admiration pour celui qui nous a fait. Tout devient providentiel quand on a des yeux de foi. D'ailleurs, vous vous souvenez, après son rêve dans la Bible, Jacob, il s'exclame, « Dieu était là et je ne le savais pas. » Quand je vois des gens qui se disent athées, mais qui ont 2, 3 enfants, je me dis, « Mais comment font-ils ? » Comment quelqu'un fait-il pour dire qu'il est athée, se regarde dans un miroir, il se voit, il voit bien qu'il existe et qu'il est, il a des yeux, des oreilles, un cerveau, une mémoire, une intelligence, il parle, il dit des choses, il s'y reproduit, il aime, il écrit. Dieu était là et je ne le savais pas. Disons que les miracles sont comme des béquilles, je vous en ai parlé souvent, des beaux miracles de Lourdes, je vous en parlerai encore. On a besoin souvent de béquilles car nos jambes nous font mal. Nos pauvres jambes spirituelles sont molles. Les miracles supposent un minimum de foi pour être reconnus comme des signes. Bien oui, un minimum de foi. Parfois, les miracles vont convertir même, vont donner la foi. Dieu pénètre tout à coup par cette ouverture. Celui qui est assez fort doit pouvoir se passer de tous ces signes, mais ils nous sont donnés, et je crois qu'on n'est jamais assez fort pour vraiment s'en passer. Moi, je préfère les accepter comme des grâces, des dons. Et c'est alors, dans le quotidien, que le banal devient merveilleux. Le banal est merveilleux. Le sourire de quelqu'un, la capacité de lire, de réfléchir, comme nous sommes privilégiés, tout est extraordinaire. Il faut passer du Dieu évoqué à la troisième personne quand on dit « il » au Dieu invoqué à la deuxième personne, soit du pluriel ou du singulier, on peut dire « tu » à Dieu. Souvent, j'ai tendance à dire « vous » à Dieu, « oh mon Dieu, vous, vous, vous ». Il faut passer du Dieu lointain au Dieu proche. Et si nous avions vraiment la foi, elle serait contagieuse. Les gens se lèveraient, partiraient au son de la cloche des églises pour recevoir le corps du Christ et chanter ensemble la gloire de Dieu. Plutôt que de parler de Dieu, il faut parler à Dieu. Il faut faire de nos vies une conversation avec Dieu, comme disait Guy de la Rigaudière, faire de notre vie une conversation avec Dieu. En se levant, en marchant, en allant faire ses emplettes, en mangeant. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il faut faire un dialogue amoureux de notre vie. Il faut apporter le témoignage de notre conviction joyeuse, là, sans chercher cependant à imposer notre point de vue aux autres. Pour pas les achaler, comme on dit, en langage de tous les jours. Il faut être et paraître à l'aise quand il s'agit de Dieu, le grand vivant qui est Dieu. Il faut passer de la notion d'une espèce de Dieu utile. Je crois en Dieu parce qu'il m'aide. Mais non. Dieu n'est pas nécessairement... Celui qui sécurise nos âmes tourmentées, c'est pas ça vraiment. Dieu est nécessaire. C'est un absolu qui s'impose, il est là, rempli d'amour. Car si Dieu est utile, on risque de l'utiliser. Puis on risque d'alors de poser la foi en termes utilitaires. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi crois-tu en Dieu? Parce que ça m'apporte la paix. Parce que ça m'apporte ceci et cela. Dans cette perspective, c'est nous qui nous mettons au centre, qu'on fait graviter Dieu autour de notre petite personne, et on risque de l'utiliser puis de le manipuler. Et on risque que Dieu ne devienne une espèce d'idole. C'est délicat, c'est dangereux. Je blâme pas les gens qui sont comme ça. C'est petit à petit qu'on découvre que Dieu est au-delà de tout ce qui est utile. Il est au-delà de toute image. Il est au-delà de toute idée. Il est. Il est. Puis il faut se faire devant lui un cœur de pauvre, hein? Un cœur de pauvre, de petit, d'enfant. Il faut accepter d'entrer en relation d'amour avec lui, d'une façon tout à fait gratuite et désintéressée. De se dire, je suis vieux, fatigué, j'ai mal partout, je n'en peux plus, mes enfants ne viennent plus me voir. Je suis dans la détresse, mais je sais, ô mon Dieu, que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je ne te demande rien d'autre que de me nourrir de ton amour. Esprit Saint, prends-moi. Prends-moi. Fais de moi un être d'amour qui t'aime et en t'aimant. Qui aime le Père et le Fils aux Trinités Saintes, Dieu unique. C'est ainsi que nous deviendrons semblables petit à petit à Dieu lui-même. Nous connaîtrons mieux qui il est. En terminant, j'aimerais vous lire cette phrase du Père Teilhard de Chardin. Je vous rappelle, le 10 avril, je vais parler de lui. Quoi qu'on dise, notre siècle est religieux. Oui, quoi qu'on dise, notre siècle est religieux. Probablement plus religieux que tous les autres, seulement, il n'a pas encore trouvé le Dieu qu'il puisse adorer. Nous cherchons partout. Les gens cherchent leur Dieu un peu partout. Ils le cherchent, mais il est celui qui est plein d'amour. Certains s'étonnent, dit Paul Aimard, certains s'étonnent de ne jamais rencontrer Dieu alors qu'ils ne tentent jamais le moindre effort de prière. Autant trouver curieux de ne pas voir le soleil alors que l'on décide de vivre les yeux clos, enfermés dans la noirceur. Je vous ai parlé de Saint Jean de la Croix le 14 décembre. Il dit, et c'est des poèmes que j'ai lus quand j'étais jeune et que j'ai lus toute ma vie, « Ah !» Cantique spirituel, hein, ô sombre forêt que la main de mon bien-aimé a plantée. Prés, délices de l'œil humain, verdure de fleurs émaillées. Dites sans feinte, mon époux n'aurait-il point passé parmi vous? J'ai en mon bien-aimé les monts et les vallées solitaires, les fleuves bruyants et profonds. Que c'est beau, Saint Jean de la Croix. C'est le plus grand poète espagnol, hein? Et Alexis Carrel, dont je vous ai parlé le 3 novembre, disait « Dieu est abordable à celui qui sait aimer. Il se cache à celui qui ne sait que comprendre. » Puis c'est Saint Vincent de Paul, dont je vous ai parlé le 27 septembre. Anne d'Autriche, la reine, disait « Pourquoi craignez-vous? Que voulez-vous faire pour Dieu que vous n'ayez point fait, monsieur Vincent? » Et Saint Vincent de Paul lui disait « Davantage ». Il faut toujours espérer faire davantage. Et Peggy, qui dans les Mystères des Saints Innocents, Jean Peggy, dont je vous ai parlé le 5 septembre, disait « Voilà la surprise que je fais, je le jugerai comme un père ». Puis Saint Jean, je vous en ai parlé le 27 décembre, il dit « Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru, car Dieu est amour ».